Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Jusqu'où Elon Musk cherche-t-il à étendre son influence ? L'hyperactif milliardaire, proche de Donald Trump, multiplie les prises de position sur la vie politique européenne. Principale cible, Keir Starmer. Elon Musk appelle le Premier ministre travailliste britannique à la démission en l'accusant d'avoir mal géré par le passé une sordide affaire d'exploitation sexuelle de jeunes filles par des pédophiles originaires du Pakistan. Keir Starmer, ancien patron du parquet en Angleterre, a réagi ce matin.
Ceux qui propagent mensonges et désinformations ne s'intéressent pas aux victimes. Ils s'intéressent à eux-mêmes.
Elon Musk prend position pour la droite dure et contre l'immigration. Il soutient notamment ce militant britannique impliqué dans les tensions communautaires de l'été dernier en Angleterre.
Libérer Tommy Robinson.
Et durant les fêtes, quelques heures après l'attaque perpétrée en Allemagne par un ressortissant saoudien contre un marché de Noël, Elon Musk s'en est pris directement au chancelier allemand.
Scholz devrait démissionner, imbécile incompétent.
Dans le quotidien allemand Die Welt, Elon Musk soutient même ouvertement le parti d'extrême droite AfD, seul capable, selon lui, de sauver l'Allemagne. Le vice-chancelier dénonce les dangereuses ingérences d'Elon Musk.
Quand Elon Musk, doté non seulement de milliards et de milliards, mais aussi d'un pouvoir de communication débridé, appelle à l'élection de l'AfD, il veut renforcer ceux qui affaiblissent l'Europe.
Alors, Elon Musk, qui a passé le 31 décembre en Floride, dans la résidence de Donald Trump, est-il en service commandé pour le président américain ? Ou s'agit-il d'initiative personnelle ? A-t-il, comme le dénonce Emmanuel Macron, pris la tête d'une nouvelle internationale réactionnaire et d'ingérence dans les élections en Europe ?
Nos trois invités pour ce débat, Jean-Louis Bourlange. Bonsoir Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes ancien député européen et selon vous, l'offensive anti-européenne d'Elon Musk est une démarche très à droite et très anti-woke. Elle s'inscrit dans une stratégie convergente avec celle de Donald Trump pour affaiblir l'Europe en soutenant des courants souverainistes de droite et opposés aux valeurs progressistes. Asma Mala, à côté de vous, politologue spécialiste de la géopolitique de la Tech. Bonsoir Asma Mala, votre livre Technopolitique est paru aux éditions du Seuil. Selon vous, on peut parler de véritable offensive avec la volonté d'affaiblir l'Union européenne, ses réglementations, notamment toutes celles sur la modération des réseaux sociaux. Et à côté de vous, Sylvie Kaufmann, éditorialiste internationale au journal Le Monde. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes également une fan de Sylvie Vartan, on l'a constaté il y a quelques instants. Votre livre Les aveugles, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie est paru chez Stock. Selon vous, Musk s'est attaqué à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, pays dirigé par des sociaux-démocrates. L'Italie est épargnée, car Musk est super copain avec Giorgia Meloni. La grande question, évidemment, c'est pourquoi la France n'est-elle pas encore concernée par cette offensive ? Et on démarre avec
le tweet du jour. Oui. C'est celui d'Elon Musk qui date de ce matin sous la forme d'un sondage dont voici la question. L'Amérique devrait-elle libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique ? Alors c'est un vote ouvert jusqu'à demain. C'est volontairement provocateur et ce n'est pas le premier du genre de la part du milliardaire américain visant le Premier ministre britannique Keir Starmer. Et son audience est énorme puisque Elon Musk compte 210 millions d'abonnés sur Twitter, soit deux fois plus que Donald Trump par exemple. Alors à ce moment-là, pourquoi cette charge contre l'Angleterre et l'Allemagne ? On l'a vu dans le sujet en priorité.
Parce qu'il y a déjà des foyers qui sont, et il y a des éléments probants qui lui permettent en fait de s'immiscer dans les failles. La Grande-Bretagne, sa première saillie a commencé cet été, au moment des émeutes racistes, xénophobes. L'Allemagne, c'est parce qu'on a une montée aujourd'hui assez spectaculaire de l'AFD, et donc ça lui donne des arguments très clairs pour justement mener...
L'extrême droite allemande à l'AFD.
L'extrême droite allemande, pour mener cette offensive anti-européenne. Et c'est très intéressant, le sondage, parce que... Alors, il y a deux choses. Il y a la partie politique, disons. C'est la question de l'affaiblissement de l'Europe comme union, parce que pour les États-Unis, et pour plus exactement les États-Unis musco-trumpistes, ils ne croient qu'en une seule chose, les deals bilatéraux. Et donc, ils vont, je pense, une des hypothèses, c'est qu'ils vont multiplier les discours, les discussions de pays à pays pour affaiblir la Commission, pour affaiblir l'Union, et parce que l'enjeu derrière, c'est en effet un état de droit qu'on a construit autour de réglementation, Digital Service Act. Le UK, la Grande-Bretagne, l'année prochaine, va avoir une réglementation sur la modération des réseaux sociaux et qui, évidemment, ne plaît pas à Elon Musk parce que, et pas simplement pour des questions économiques, parce que la réglementation de la modération empêcherait X d'être ce rouleau compresseur idéologique pour cette fameuse internationale
populiste
que Sylvie mentionnait dans son papier.
Sylvie Kaufmann, est-ce qu'on peut parler d'offensive contre la démocratie ou alors de protection d'abord de ses intérêts économiques ? On sait par exemple qu'en Allemagne, il a une usine et que ça pose problème parce qu'il estime que la législation ne lui est pas favorable. Qu'est-ce qui prime chez lui ?
Non, je pense que... Alors, la vraie question aussi, c'est est-ce qu'il y a vraiment une poussée idéologique ? Est-ce qu'il y a une volonté idéologique derrière cette opération ? Probablement oui, parce que les cibles sont effectivement des dirigeants sociodémocrates, des Européens bien installés, des pays européens importants, même si la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est un pays qui compte énormément en Europe. Et donc, on voit bien que c'est une offensive qui vise à déstabiliser tous ces régimes et tous ces régimes démocratiques européens. Alors, après, la grande question, c'est quel est le rapport avec Donald Trump ? Est-ce que c'est une opération téléguidée ?
Cautionnée par Donald Trump ?
Pourquoi, pour vous ? Est-ce que c'est le cas ou pas ?
Moi, je pense qu'elle est en tout cas approuvée.
Concertée.
Je ne sais pas si elle est concertée. On n'en sait rien, en réalité. Mais c'est évident que ça va aussi dans l'intérêt, dans le sens de ce que fait Donald Trump.
Jean-Louis Bourlange, on rappelle que la tribune publiée par Elon Musk dans Die Welt, grand quotidien allemand, offre un soutien officiel donc d'Elon Musk à l'AFD comme rempart contre la décadence allemande. C'est ainsi qu'il se...
Absolument.
Qu'il présente le mouvement d'extrême droite.
Je crois que c'est sorti véritablement saisissante par leur inopportunité, leur violence, la mise en cause d'autorités établies et démocratiquement constituées est très surprenante. Donc je crois que ça pose trois questions.
Oui.
Premièrement, pourquoi tant de haine, si je puis dire, pourquoi tant de violence, pourquoi au moment où s'installe Donald Trump à la Maison-Blanche, est-il nécessaire de porter à ce degré d'incandescence les relations entre le plus proche conseiller du président Trump et des chefs d'État démocratiquement élus de l'Europe. Pourquoi
cette violence ? Parce qu'il a aussi appelé à la démission
de Olaf Scholz. La deuxième question qui est posée, c'est est-ce que ce qui prévaut, ce sont les intérêts économiques, c'est-à-dire, effectivement, ce que vous avez dit, c'est-à-dire le refus de cautionner ce que fait l'Union européenne en matière de modération, de réglementation, de protection contre les fake news, ou est-ce que c'est une démarche idéologique, plus fondamentale, visant à mettre en cause les fondements de ce qui a été l'Europe occidentale depuis la guerre, c'est-à-dire l'envers complet de ce qu'ont défendu les administrations démocrates et républicaines dans les années 50. Et la troisième question, qui n'est pas la plus négligeable, c'est de savoir si M. Musk parle ou non au nom du président Trump, et si on peut penser, comme certains le disent, que tout ce feu d'artifice aboutira quand même assez rapidement à une rupture ou à des difficultés entre eux, notamment quand on considère ce qui se passe en Chine, où les intérêts de Musk sont de coopération avec la Chine, et où le président Trump, manifeste une volonté d'opposition frontale à l'expansion économique chinoise.
On va y revenir, mais l'offensive réactionnaire donc d'Elon Musk rappelle la tournée en Europe d'un certain Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump. Regardez, c'est notre archive, on est en septembre 2018, quelques mois avant les élections européennes.
Arrivé sous escorte policière, séance photo, en Italie, Steve Bannon poursuit sa campagne anti-Union européenne. Invité d'honneur du parti souverainiste Fratelli d'Italia, avec le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Nous voulons retrouver notre souveraineté et récupérer notre citoyenneté.
L'ancien conseiller stratégique de Donald Trump est venu faire la promotion du mouvement, son projet d'union des extrêmes droites d'Europe, contre Bruxelles, la finance et l'immigration. L'objectif de Steve Bannon, faire gagner des sièges à l'extrême droite lors des élections européennes de mai prochain. Avant l'Italie, Steve Bannon s'est rapproché d'autres dirigeants de partis nationalistes, et notamment Marine Le Pen en France, ou encore l'ancien chef de UKIP au Royaume-Uni, Nigel Farage, ainsi que le premier ministre hongrois, Viktor Orban.
On aura reconnu bien sûr Giorgia Meloni, qui est devenue entre-temps la présidente du Conseil italien. Asma Malla, que cherche à faire Musk? Il marche dans les pas de Bannon, il veut fédérer les extrêmes droites.
En plus efficace, européenne. En plus efficace. Il y a plusieurs choses. Il y a le timing, il y a le momentum. Il y a quelques années de ça, je pense que les opinions publiques étaient prêtes, mais pas à ce point, disons, prêtes à accueillir ce type de discours. Et puis, tout à l'heure, vous évoquiez... Donc, il y a la question du temps, du timing. Il y a aussi... Steve Bannon était arrivé sur des partis qui n'étaient pas forcément en front uni. Les partis d'extrême droite en Europe ne sont pas forcément toujours alignés. Là,
Bannon n'avait pas de réseau social.
Et j'y arrive. Et c'est en lien avec
Musk.
Exactement. Et c'est en lien avec ce que vous montriez tout à l'heure, le sondage de ce matin. En fait, il a organisé X et les questions idéologiques et économiques sont imbriquées, sont hybridées totalement. Et c'est ce qu'il faut absolument comprendre avec les nouvelles économies de la Big Tech. C'est qu'en fait, économie et modèle économique et modèle idéologique sont vraiment en symbiose. Et pourquoi? Parce que quand il détruit la modération, il permet à X d'être cet organe de propagande de ses idées nationales, populistes. Et c'est exactement la question du pôle, c'est-à-dire qu'il a organisé X comme en fait un nouvel outil de community organizing. C'est comment est-ce qu'on organise le récit, comment est-ce qu'on façonne l'opinion, comment est-ce qu'on modélise l'agenda politique, médiatique à travers X. Et ça marche. Et par ailleurs, et pour terminer, pourquoi est-ce qu'il sera beaucoup plus efficace? Et je dis bien, il sera plus efficace que Steve Bannon, parce qu'il a aussi avec lui une communauté de tous ses followers qui deviennent des milices, qui deviennent des experts de cyberharcèlement, de l'intimidation, et donc en fait des prémices de la terreur. Et j'assume de le dire.
Assumez le mot terreur? Oui. Terreur numérique.
Oui, et d'ailleurs, même quand on reprend les verbatims de Trump, on parle de persécution de l'ennemi, de la presse indépendante, des opposants politiques. Pardon, ce ne sont pas des discours, ce n'est pas le champ lexical de la démocratie.
Jean-Louis Bourlange, le diagnostic est terrible.
Il y a une différence fondamentale entre Steve Bannon et Elon Musk, c'est que Steve Bannon est un militant d'extrême droite, un militant haut gradé qui sert l'extrême droite. Musk, c'est un chef, c'est un maître. C'est lui qui dirige, c'est lui le Führer. C'est pas simplement un collaborateur. Et je crois, ma fille m'avait dit il y a longtemps, ma fille elle a 50 ans, c'est pas ma petite fille, elle m'avait dit il y a une dizaine d'années, en parlant de Musk, et je crois que c'était très juste, elle m'a dit, c'est le modèle absolu du méchant dans les films de James Bond. C'est-à-dire ce mélange de volonté de puissance, de privatisation de la puissance, d'utilisation de la technologie, et tout ce que vous venez de dire, et ça c'est quelque chose, et je crois que l'élection de Trump, à cet égard, si elle assure la promotion de Musk, c'est le seul cas, le seul film connu de James Bond qui se termine par la victoire du méchant.
La victoire de M.
Une autre différence entre Steve Bannon et Elon Musk, c'est Steve Bannon, c'est un idéologue.
Oui.
Ce qui n'est pas, dans le sens où on entend le mot idéologue, ce n'est pas le cas exactement de Musk. Mais si vous prenez le thème de l'immigration, dont on vient de... regardez comment exactement, avec précision, Musk attaque Keir Starmer. Depuis le début, depuis juillet.
Le Premier ministre britannique.
C'est sur le thème de l'immigration. C'est-à-dire, d'abord, c'était sur les émeutes racistes de l'été. Et maintenant, c'est sur cette vaste affaire d'exploitation sexuelle d'enfants par des immigrés pakistanais, etc. Et là, c'est vraiment... C'est méthodique, c'est sans arrêt, c'est vraiment en attaquant des gens, avec des fake news, c'est totalement faux. Et Keir Starmer aujourd'hui a réagi en essayant de replacer cette histoire dans son contexte, parce que lui était à l'époque procureur général de Grande-Bretagne, donc c'est pour ça qu'il est mis en cause. Mais ce dont l'accuse Elon Musk ne correspond pas du tout aux faits. Donc la manière dont il prend ce thème de l'immigration pour l'exploiter, alors que lui-même... par ailleurs, est en train de se discuter avec... Oui, lui, c'est un immigré.
Oui. Et en Afrique du Sud.
Voilà, et il est en train de se discuter avec Steve Bannon et une partie des supporters MAGA de Trump sur cette question de l'immigration. Enfin, c'est vraiment très compliqué.
La question qu'on se pose, c'est est-ce que la France est la prochaine cible ? Il l'anticipe, le président de la République, Emmanuel Macron. Il s'en est pris vivement ce matin même au milliardaire américain. Écoutez.
Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie.
À ce moment-là, c'est la prochaine cible, la France, ou pas ?
Compte tenu des déclarations d'Emmanuel Macron, il risque de se prendre une petite salve, un petit shitstorm pardon, sur Twitter. Oui, ça va être très intéressant de voir comment Elon Musk va réagir à ça, parce que jusqu'à présent, et je terminerai là-dessus, Elon Musk a été reçu par le président de la République française et par l'ensemble de ses ministres de premier rang comme un chef d'État.
Là, on l'a encore vu à Notre-Dame lors de l'inauguration. Oui. Alors, on va évoquer la manière dont les Européens peuvent créer des barrières, des garde-fous pour lutter contre l'ingérence de X et de Elon Musk, avec notamment une enquête de la Commission européenne depuis décembre 2023.
Exactement, l'enquête, elle est d'ailleurs toujours en cours. La Commission européenne devait rendre ses conclusions juste après l'été, mais pour l'instant, toujours rien. X est spécifiquement pointé du doigt par l'Union européenne pour son manque de modération, on l'a dit, des contenus, son manque de transparence en termes de publicité et pour le fait de ne pas fournir les données du réseau aux chercheurs qui en font la demande. Mais la plateforme est aussi accusée de diffuser des contenus illégaux et de ne pas faire suffisamment d'efforts contre la manipulation d'informations, autant de points qui vont à l'encontre du Digital Service Act qui est entré en vigueur intégralement en février 2024. Et la plateforme risque pour cela des sanctions financières à hauteur de 6% du chiffre d'affaires mondial d'Elon Musk, toute activité confondue, Tesla, SpaceX et X. L'amende pourrait donc se chiffrer à près de 6 milliards d'euros, selon l'AFP. Et si X persistait à ne pas vouloir se conformer à la réglementation européenne, le réseau pourrait même se voir interdit dans l'Union européenne. Petite parenthèse, la Commission a tout de même déclaré aujourd'hui, Commission européenne, que rien n'interdit à Elon Musk d'afficher son soutien à l'extrême droite. Mais maintenant, pour revenir à ces sanctions...
Comme une déclaration.
Oui, Jean-Louis Bourlange, sur ces sanctions, est-ce que ça semble crédible que les 27 pays arrivent à se mettre d'accord pour contrer Elon Musk ?
Moi, je crois que l'approche technique est tout à fait nécessaire. Tout ce que vous avez dit précédemment sur la nécessité de lutter contre ce développement d'un système d'information complètement biaisé, complètement truqué, complètement manipulateur est important. Mais il faut voir que nous sommes en face de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vaste que la simple mise en action d'un système technologique. Nous sommes en face d'une agression caractérisé sur l'ensemble de nos valeurs. Les partis que soutient M. Musk sont pro-poutiniens, pour la plupart.
Justement, est-ce qu'il faut prendre des sanctions ?
Mettons à part Mme Meloni qui a fait des déclarations qui n'étaient pas très heureuses. Elle nous a habitués à mieux, généralement. Mais pour la plupart, ce sont des démocrates, ce sont des gens qui défendent un certain type de valeurs, et c'est le principe même de l'Union européenne. Mmh. C'est donc quelque chose qui est le cœur de ce qui est notre choix fondamental, notamment nous autres, Allemands et Français, mais au-delà, Européens, qui est le cœur de nos choix depuis 1950, en réalité. Et là, je pense que la riposte... Il y a un communiqué de la Commission. C'est un communiqué émanant du spécialiste du commissaire en charge de ces réseaux. Nous devons aller bien au-delà. Alors, oui. C'est un problème politique majeur et ce sont les États qui doivent réagir. La France sera-t-elle attaquée ? J'ai tendance à dire comme La Fontaine. Tous n'en mouraient pas, mais tous étaient frappés. Mais peu importe. De toute manière, c'est une réaction collective. Nous devons la voir sur l'Ukraine, nous devons la voir sur la démocratie.
Justement, la Commission européenne l'a eue, mais peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Après l'annonce par Elon Musk d'un dialogue qu'il va avoir avec la leader de l'AFD, Alice Weidel, on va voir le tweet qu'il a fait, ça sera le 9 janvier prochain. Sylvie Kaufmann, est-ce qu'en même temps l'Union européenne est unie ? On n'a pas l'impression qu'elle est unie pour mener ce combat nécessaire, ce que vous dites contre...
Rappelez-vous qu'en 2022, l'Union européenne a interdit deux médias russes, RT et Sputnik. Mm-hmm. Donc l'Union européenne, et maintenant il y a aussi le Digital Service Act qui n'existait pas en 2022, enfin qui n'avait pas été encore entré en vigueur. Donc elle a les moyens de le faire. Est-ce que
la volonté politique?
Non, elle peut imposer des sanctions. D'ailleurs, ces 6 milliards d'euros seraient très bienvenus en ce moment dans les finances de l'Union européenne. Elle peut imposer des sanctions, elle peut exiger des explications, et puis elle peut, finalement, en dernier ressort aussi, interdire. Alors c'est vrai qu'après, il faut... s'il y a une interdiction,
on peut assumer l'interdiction du réseau de l'homme le plus riche du monde.
Il faudra aller assez loin pour y arriver. Non, ouais. Il faudra qu'il aille assez loin pour qu'on arrive à cette mesure. C'est vraiment une mesure en dernier ressort, mais elle existe.
Mais pardon, mais lui dit « je suis l'homme de l'expression libre », justement.
Oui,
c'est
mais
ça son argument.
S'il y a une ingérence,
s'il
y a une ingérence dans les processus électoraux, ça, c'est prévu dans le Digital Service Act.
La liberté maximale n'est pas la licence, c'est-à-dire que la licence est une perversion de la liberté. La liberté dans un état de droit suppose des limites et un cadre que lui outrepasse dans nos frontières, ça c'est la première chose, et donc la réglementation doit évidemment s'appliquer, mais ça ne sera évidemment pas la réponse. Et en fait, moi depuis quelques émissions, dont la dernière qu'on avait faite ensemble, je vois les commentaires. Et en réalité, Musk et Trump, ce couple, Big Tech, Big State, a une fanbase en Europe dont on ne soupçonne pas.
Fanbase, en français, ça fait quoi un réseau de...
je dis bien de supporters, de fans, avec la dimension de gourou, de trans. Il y a quelque chose de très violent, il y a une rage, une colère qu'on n'a pas su entendre et accueillir. Et je terminerai par critiquer les dérives de nos systèmes. On en a eu, on n'a pas une démocratie parfaitement opérante aujourd'hui, n'exclut pas la crainte et la critique de ce qui nous attend. L'un n'exclut pas l'autre. Or, ce qu'on voit, c'est tu es avec moi ou contre moi. Non, il y a des troisièmes voies, il y a des voies de nuances où on peut réparer ce qu'on est en train d'endommager et on n'est pas en train de le faire. Et ça suppose un aggiornamento de la social-démocratie qu'on n'est pas en train de faire.
Jean-Louis Bourlange, vous avez 15 secondes, il faut interdire Twitter ou pas? C'est l'argument ultime de l'Union européenne aujourd'hui?
Écoutez, moi, je ne me prononce pas là-dessus parce que je crois qu'il faut vraiment poser le problème dans son ensemble. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir les relations avec les États-Unis, au-delà de Twitter. Est-ce que les relations avec les États-Unis vont se développer sur cette base?
Très bien.
Si ça se développe sur cette base, c'est vraiment la fin de tout ce qui a été notre après-guerre. Et j'ose espérer que Trump, si imprévisible soit-il, comme dirait le président Zelensky, va effectivement marquer des limites parce qu'on ne peut pas continuer avec des mesures de déstabilisation de cette violence, de cette ampleur, de cette de directionnalité, si je puis dire. Ce n'est pas tolérable.
Merci.
Alors, est-ce que nous allons réagir? Je l'espère.
Merci à tous les trois et à votre fille cinéphile.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.